Chapitre 3. Zed baissa les yeux sur les morts et les agonisants qui jonchaient le couloir. Impossible de faire un pas sans marcher sur du sang. Un seul grinceur, pensa le sorcier le cœur serré. Que se passerait-il s'ils attaquaient en masse?
Général, faites venir des guérisseuses, je ne peux pas m'occuper de tant de gens.
Je m'en charge, sorcier Zorander.
Zed entreprit d'examiner les blessés. Des soldats de la première phalange circulaient entre les cadavres, souvent ceux de leurs frères d'armes. Ils tentaient de dégager le passage et s'arrêtaient parfois pour réconforter les blessés. Le vieux sorcier posa le bout de ses doigts sur le front de tous les survivants pour déterminer la gravité de leurs plaies. Certains seraient sauvés par de simples guérisseuses, d'autres auraient besoin d'interventions plus pointues. Il examina un jeune soldat qui s'efforçait de respirer malgré le sang qui emplissait sa bouche et lâcha un grognement sinistre. Le plastron du pauvre garçon était déchiqueté et on voyait les côtes pointées sous la chair en lambeaux. Alors que Zed s'efforçait de ne pas vomir, Trimax s'agenouilla de l'autre côté du jeune blessé. Quand les regards des deux hommes se croisèrent, ils hochèrent tristement la tête. Les poumons de ce soldat-là n'aspiraient plus beaucoup d'air.
« Allez voir les autres, » dit le général. « Je reste avec ce pauvre gosse. »
Zed s'éloigna alors que Trimac, après avoir pris la main du garçon, lui débitait des mensonges réconfortants. Trois femmes vêtues de longues jupes marron truffées de poches arrivèrent en courant. Quand elles découvrirent le carnage, leurs visages impressionnants de maturité ne trahirent aucune panique. Elles sortirent de leurs poches des bandages et des cataplasmes, se penchèrent sur les blessés et commencèrent à recoudre leurs plaies ou leur administrer des potions. La plupart des dommages rentraient dans les compétences de ces guérisseuses, les autres dépassaient souvent celles de Zed. Il approcha de la femme qui semblait la moins susceptible de discuter un ordre et lui demanda d'aller s'occuper de Chase, toujours sur son banc, le menton posé sur la poitrine. Assise à ses pieds, Rachel s'accrochait à ses jambes. Le sorcier et les deux guérisseuses restantes passèrent d'un blessé à l'autre. Soulageant quand ils le pouvaient, ils se détournaient lorsque c'était impossible. Penché sur une patiente récalcitrante qui lui faisait signe de la laisser en paix, une des femmes appela Zed à l'aide. En s'accroupissant, il posa les genoux sur la robe poisseuse de sang de la malheureuse. D'une main, elle écarta le bras qu'il tendait vers elle. De l'autre, elle tentait de garder ses intestins en place dans son ventre ouvert.
« Ne vous occupez pas de moi. D'autres ont besoin d'aide. »
La femme avait déjà un teint de cendre. Une fine chaîne d'or où pendait une pierre bleue saignait son front. La gemme étant de la même couleur que ses iris, on aurait pu croire qu'elle avait trois yeux. Reconnaissant la pierre, Zed se demanda si elle était authentique ou s'il s'agissait d'un bijou fantaisie. Voilà des lustres qu'il n'avait plus vu quelqu'un arborer ainsi ce symbole. Une si jeune femme ne savait sûrement pas ce qu'il signifiait.
« Je suis le sorcier Zedicus Zolzorander. Mon enfant, qui es-tu pour oser me donner des ordres ?»«
Pardonnez-moi, sorcier, »
souffla la moribonde. Elle se calma un peu quand Zed lui posa ses doigts sur le front. Mais la douleur qui déferla en lui le força à retirer sa main et il dut lutter pour refouler ses larmes. Il n'y avait plus de doute. Elle portait la pierre en toute connaissance de cause. Ce troisième œil, celui de l'esprit, était le talisman de sa vision intérieure. Quelqu'un tira soudain sur la tunique du vieil homme.
« Sorcier !»
lança une voix geignarde dans son dos.
« Occupez-vous d'abord de moi !»
Zed se retourna et découvrit un visage aussi désagréable que la voix, et peut-être même un peu plus.
« Je suis dame Ordite Condadite de Dakinvich de la maison Burgalas. Oh, cette fille est une vulgaire servante. Si elle avait couru assez vite, je ne serais pas dans cet état. Elle était si lente que j'aurais pu lui laisser la vie. « Occupez-vous de moi, je risque d'expirer à tout moment. »
Avant même de la toucher, Z aurait juré qu'elle n'avait pas grand-chose.
« Veuillez me pardonner, madame, »
dit-il en lui palpant le front. Exactement ce qu'il pensait. Des côtes fêlées, des contusions aux jambes, une petite coupure sur un bras, un ou deux points de suture et il n'y paraîtrait plus.
« Alors ?»
demanda la dame en tirant sur la fraise couleur argent qui lui serrait le cou.
« Oh, ces sorciers de vrais bons à rien. Et les gardes, on aurait dit qu'ils dormaient debout. Maître Rallan sera avisé. Qu'en est-il de mes blessures ?»«
Madame, je doute de pouvoir quelque chose pour vous. »«
Quoi ?»
Elle tira violemment sur la fraise comme pour se donner de l'air.
« Soignez-moi, ou je m'assurerai que votre tête finisse au bout d'une pique. Alors, on verra quel bien vous apporte votre fichue magie. »
« Madame, je vais faire de mon mieux. »
Z saisit la manche droite de la femme là où elle était entaillée et tira d'un coup sec pour déchirer sur toute sa longueur le satin marron hors de prix. Puis il reposa une main sur l'épaule de la fille à la pierre bleue, lui transmit un peu de sa force et bloqua la douleur. Voyant que sa respiration se calmait, il laissa sa main en place et utilisa sa magie pour réconforter la patiente.
« Ma robe !»
couina Dame Ordite.
« Les fichus !»«
Désolé, mais la plaie risquait de s'infecter. Mieux vaut perdre un vêtement qu'un bras, n'est-ce pas ?»«
Eh bien, je suppose que oui. » »«
Une quinzaine de points de suture devraient suffire, » dit Z à la guérisseuse agenouillée entre les deux blessés.
La femme regarda la plaie minuscule, puis dévisagea le sorcier.
« Je suis sûr que vous savez ce que vous dites, sorcier Zorander, »
fit-elle, son regard trahissant qu'elle avait compris les intentions de Zed.
« Quoi ?»
s'égosilla la dame.
« Vous n'allez pas laisser cette charcutière prendre soin de moi !»«
Madame, je suis âgée, la couture me dépasse et mes mains tremblent parfois beaucoup. J'ai peur de faire plus de mal que de bien, mais si vous insistez... »
« Non, va pour la charcutière. »«
Parfait. »
Z regarda la guérisseuse. Elle n'avait pas bronché, mais légèrement rosi.
« Pour les autres blessures de cette dame, considérant sa souffrance, j'ai peur qu'il n'y ait qu'un espoir. Avez-vous de la racine de mimosa ?»«
Oui, mais très bien, »
coupa Z.
« 2 cubes devraient suffire. »
« Deux, mais... »« Ne lésinez pas !»
s'écria Dame Ordite.
« Si vous tombez à court, quelqu'un de moins important que moi devra s'en passer, c'est tout. Je veux la plus forte dose. »«
Bien dit, »
fit Z.
« Guérisseuse, donnez-lui 3 cubes. Râpé, pas entier. »«
Râpé ?»
répéta la guérisseuse époustouflée. Z acquiesça fermement et la charcutière sourit. Cette racine apaiserait la douleur, mais il n'y avait aucune raison de la râper. Et 1 cube aurait suffi. 3 sous cette forme ficheraient des coliques d'enfer à la noble dame qui ne sortirait pas beaucoup de ses toilettes pendant une semaine.
« Comment vous nommez-vous, ma chère ?»
demanda Z à la guérisseuse.
« Kelly Halleck. »«
Eh bien, Kelly, d'autres blessés ont-ils besoin de mes soins ?»«
Non, messire. Maïdi et Annalie peuvent s'en charger. »
« Alors, auriez-vous la bonté de conduire Dame Ordite dans un endroit où elle cessera... où elle sera à son aise pendant que vous la secourez ?»
Kelly baissa les yeux sur la fille à la pierre bleue.
« Bien sûr, sorcier Zorander. Vous avez l'air épuisé. Quand vous aurez fini, passez me voir et je vous ferai une tisane à la sténadine. »
La guérisseuse eut de nouveau un petit sourire. Connue pour ses vertus reconstituantes, cette décoction était aussi un redoutable aphrodisiaque, et cette femme devait savoir la préparer à la perfection.
« Je viendrai peut-être, »
répondit le sorcier, non sans un clin d'œil à la séduisante guérisseuse. À un autre moment, ça aurait été des paroles en l'air. Pour l'heure, il avait d'autres soucis en tête.
« Dame Ordite, comment s'appelle votre servante ?»
« Djebra Bevinvier, elle ne vaut rien, paresseuse et arrogante, voilà ce qu'elle est. »«
Eh bien, vous n'aurez plus à la supporter. Sa convalescence sera longue et vous quitterez bientôt le palais.
Moi, quitter le palais? Je n'en ai pas la moindre intention.
L'endroit n'est plus assez sûr pour quelqu'un de votre importance. Et comme vous le dites si bien, les gardes passent leur temps à ronfler. Il faut partir, madame, je vous en conjure.
Mais je n'avais pas prévu de...
Kelly, coupa Zed, il est temps de conduire Dame Ordite dans un lieu plus digne de son statut.
Kelly emporta la dame, comme un vulgaire sac de linge, avant qu'elle ait eu le temps de protester davantage. Zed sourit à Djebra et écarta doucement les mèches de cheveux blonds collées à son front. La jeune femme tenait toujours un bras sur sa blessure. Le sorcier avait réussi à enrayer l'hémorragie, mais ça ne suffirait pas à la sauver. Il fallait remettre ses entrailles à leur place.
« Merci, messire. Je me sens déjà beaucoup mieux. Si vous m'aidez à me lever, je cesserai de vous embêter. »«
Ne bouge pas, mon enfant. Nous devons parler. »
D'un regard, il signifia aux curieux de s'éloigner. Les soldats de la première phalange n'eurent pas besoin d'un dessein pour disperser l'attroupement.
« Je vais mourir, n'est-ce pas ?»
demanda Djebra, son souffle s'accélérant.
« Pour ne pas te mentir, mon enfant, guérir ta blessure sera déjà à la limite de mes compétences, sans mon épuisement actuel. Hélas, si je prends le temps de récupérer, ce sera trop tard pour toi. » « Et sans intervention tu succomberas, mais si j'essaie, cela hâtera peut-être ta fin. »«
Combien de temps me reste-t-il ? » ?»«
Sans soin peut-être quelques heures, voire la nuit, et j'apaiserai la douleur pour que ton agonie soit supportable. »«
Je n'aurais pas cru tenir autant à la vie, »
gémit Djebra.
« À cause de la pierre de divination que tu portes ?»
« Vous l'avez reconnu ? Et vous savez qui je suis ?»«
Oui. Il y a longtemps qu'on n'identifie plus les pitis à leurs pierres. Mais je suis très vieux. Pourquoi as-tu d'abord refusé que je t'aide ? Tu craignais que ton contact me fasse du mal ?»«
Oui. Mais soudain, j'ai eu très envie de vivre. »«
C'est tout ce que je voulais savoir. »
fit Zed en tapotant l'épaule de la jeune femme.
« Ne t'en fais pas pour moi. Je suis un sorcier du premier ordre, pas un débutant. »«
Du premier ordre ? J'ignorais qu'il en restait encore. S'il vous plaît, messire, ne risquez pas votre vie pour moi. »«
Ma vie n'est pas en danger, même si je souffrirais un peu. Au fait, mon nom est Zed. »
Djebra réfléchit un court moment, puis sa main libre agrippa la manche du vieux sorcier.
« Zed, puisque j'ai le choix, je veux tenter de survivre. »«
Dans ce cas, je jure de faire de mon mieux. »
Alors qu'il lui caressait le front, elle s'accrocha à lui comme un naufragé à une planche.
« Mais peux-tu t'arranger pour que les visions ne me fassent pas trop souffrir ?»«
Non. » Je suis navré. Peut-être ne devriez-vous pas...
Plus un mot, mon enfant.
Zed prit une grande inspiration, posa une main sur le bras de Djebra qui compressait la blessure et plaça doucement son autre paume sur ses yeux. Les dégâts ne pouvaient pas être réparés de l'extérieur. Il devait agir de l'intérieur, avec l'aide psychique de Djebra. Cela pouvait la tuer, et lui avec. Zed rassembla ses forces et leva tous ses boucliers mentaux. Le déferlement de douleur lui coupa le souffle, et il n'osa pas gaspiller son énergie à tenter de le reprendre. Les dents serrées, les muscles durs comme de la pierre, il lutta pour résister à l'assaut, et il n'avait pas encore effleuré la douleur de la blessure. Avant de s'attaquer à ce problème, il lui fallait s'accommoder de celle que lui infligeaient les visions de Djebra. Torturé, son esprit sombra dans un torrent d'obscurité où tourbillonnaient des images fantômes. Si leur sens lui échappait, leur réalité le blessait comme une lame. Bien qu'il eût fermé les yeux, des larmes s'en échappèrent et ses membres tremblèrent sous l'effort qu'il produisait pour nager à contre-courant du flot d'angoisse. Car s'il se laissait emporter, il ne retrouverait jamais les rivages de la vie. L'émotion que charriaient les visions le frappa plus violemment à mesure qu'il s'enfonçait dans l'esprit de la jeune femme. De sombres pensées, tapies sous la surface de cet océan, s'accrochèrent à sa volonté comme des griffes et tentèrent de l'entraîner dans les profondeurs d'une résignation sans espoir. Ses souvenirs les plus pénibles remontèrent à sa conscience pour se jeter dans le fleuve de tristesse qu'était depuis toujours la vie de Djebra. Une atroce confluence de douleur et de folie. N'était son expérience et sa détermination, la santé mentale et la volonté de Z auraient été inexorablement entraînées vers les hauts fonds de l'amertume et du chagrin. Sa lutte fut récompensée quand il atteignit l'essence même de Djebra, au centre de son âme, où régnait le calme et une douce lumière blanche. Après ce qu'il venait de traverser, Z trouva presque réconfortant le contact de la douleur modérée liée à une blessure pourtant mortelle. L'imagination dépassait toujours la réalité, et dans cet imaginaire-là, la souffrance existait bel et bien. Autour de cette oasis de paix, les ténèbres glaciales de la mort gagnaient inexorablement du terrain sur la chaude lumière de la vie, impatiente d'envahir à jamais l'esprit de leur proie. Z repoussa ce linceul d'obscurité et laissa la vive lueur de son pouvoir illuminer et réchauffer l'esprit de la jeune femme. Devant la puissance de la magie additive, les ombres furent contraintes de reculer. La force de cette magie, son amour profond de la vie, remirent les organes de Djebra là où la nature les avait placés. Z, n'ayant pas osé consacrer une once de son énergie à calmer la douleur, Djebra hurla et cambra le dos. Le vieil homme partagea ce calvaire, son propre abdomen tellement déchiré qu'il tremblait comme une feuille. Quand le plus difficile, qui restait toujours au-delà de sa compréhension, fut accompli, le sorcier détourna un peu d'énergie pour apaiser les tourments de Djebra. Avec un soulagement qu'il éprouva dans sa propre chair, elle se laissa retomber sur le sol en gémissant. Z utilisa son pouvoir pour l'ultime étape, refermer la plaie. Les tissus se ressoudèrent, strate par strate, formant des muscles, puis une peau aussi lisse que celle d'un nouveau-né. Le miracle réalisé, Z devait sortir de l'esprit de Djebra, une étape encore plus dangereuse que les autres, surtout dans son état d'épuisement. S'inquiéter étant une perte de temps, il s'abandonna au torrent de douleur et se retrouva, une bonne heure après le début du sauvetage, à genoux sur le sol, le dos voûté, des larmes ruisselant de ses yeux. Djebra s'assit, lui passa un bras autour des épaules et le serra contre lui. Soudain conscient qu'il était revenu dans le monde réel, Z reprit le contrôle de son corps et de ses émotions et adopta une posture plus adaptée à son statut. Jetant un coup d'œil autour de lui, il constata que les soldats et les curieux se tenaient à une distance respectable, quasiment hors de portée d'oreille. Seul un fou aurait voulu rester près d'un sorcier dont la magie arrachait des cris pareils à une jeune femme.
« Et voilà !»
dit-il, sa dignité en partie retrouvée.
« Ce n'était pas si terrible. Je crois que tout est rentré dans l'ordre. »
Djebra eut un étrange petit rire et le serra plus fort contre elle.
« On m'a enseigné qu'un sorcier ne pouvait pas guérir une pitié. »«
Un sorcier ordinaire en serait incapable, »
pontifia Z en levant un index décharné.
« Mais je suis Zedicus Zulzorander, du premier ordre. »
« Je n'ai rien de valeur à vous offrir, »
dit Djebra en écrasant une larme sur sa joue.
« À part cela. »
Elle retira la chaîne qui saignait son front et la tendit au vieil homme.
« Veuillez accepter cet humble présent. »«
C'est très gentil à toi, Djebra Bevinvier, »
disait en baissant les yeux sur le bijou.
« Crois-moi, je suis très touché. »
Et un rien coupable de t'avoir suggéré cette idée, ajouta-t-il in petto.
C'est une belle chaîne. Je l'accepte avec une profonde et modeste gratitude.
Invoquant une infime volute de pouvoir, il sépara la pierre de son support, la seule chose dont il avait besoin.
« Mais garde donc ta pierre, mon enfant, elle te revient de droit !»
Djebra prit la pierre et embrassa le sorcier sur la joue.
« À présent, mon enfant, » dit Zed, enchanté de ce baiser, « tu vas devoir te reposer. Pour te guérir, je t'ai pris beaucoup de force. Quelques jours au lit et tu seras en pleine forme. »
« Vous m'avez guéri, Zed, mais aussi débarrassé de ma patronne. Je dois trouver un emploi pour me nourrir. »
Elle regarda sa robe verte déchirée et tachée de sang.
« Et me vêtir. »
« Pourquoi portais-tu la pierre si tu étais vraiment la servante de Dame Ordite ?»«
Peu de gens savent ce que représente ce symbole. Dame Ordite l'ignorait. Son époux, le duc, en était informé. » Il voulait en tirer parti, mais son dragon d'épouse n'aurait jamais accepté qu'il ait une femme à son service. Du coup, il m'a engagé comme dame de compagnie pour elle. Je sais que se prêter à ce genre de stratagème n'est pas honorable pour une pitié, mais il y a beaucoup de misère en Burgalas. Parce qu'il redoutait mes visions, mes parents m'ont mise à la porte. Juste avant de mourir, ma grand-mère m'avait donné la pierre et dit qu'elle serait honorée si je la portais. Merci de me l'avoir rendue, d'avoir si bien compris.
Ces deux dernières phrases ravivèrent la culpabilité du sorcier.
« Ainsi, le duc te demandait de le servir en douce ?»«
Oui. Cela dure depuis une dizaine d'années. Étant la dame de compagnie de son épouse, j'étais presque toujours présente lors des cérémonies ou des négociations. Après, le duc me consultait en secret pour que je lui dise ce que j'avais vu sur ses adversaires. Grâce à moi, il est devenu puissant et riche. » Presque plus personne ne sait ce que signifie une pierre de divination. Le duc méprisait les ignorants. Me laisser porter l'artefact était une manière de se moquer de ces idiots d'adversaires. J'étais aussi chargé de surveiller Dame Ordite qui n'aurait pas détesté devenir veuve avant l'heure. Ayant constaté qu'elle n'y parvenait pas, elle s'est contentée de quitter le château du duc le plus souvent possible. Elle aurait adoré être débarrassée de moi, mais son mari usait de toute son influence pour qu'elle me garde à son service.
« Pourquoi aurait-elle aimé ne plus t'avoir avec elle ? Serais-tu paresseuse et arrogante comme elle le prétendait ?»
Zed sourit pour signifier qu'il plaisantait.
« Non, » répondit Djebra en lui rendant son sourire. « C'est à cause des visions ? Quand j'en ai ? Eh bien, en me guérissant, vous avez éprouvé une grande souffrance. Si c'est moins grave pour moi, ça m'empêche parfois de faire mon autre travail. »
« Puisque te voilà au chômage, » disait en se grattant le menton, « rien ne t'empêche de passer ta convalescence ici comme invité d'honneur. J'ai une certaine influence au palais du peuple. » Le plus surprenant, pensa-t-il en sortant une bourse bien garnie de sa poche, c'est que je dis la stricte vérité. Accepte cet argent pour tes menues dépenses et en guise d'avance sur ton salaire. Si je peux te convaincre de prendre un nouvel employeur. »
Djebra soupesa soigneusement la bourse.
Ce sont des pièces de cuivre, ça ne suffira pas, sauf pour vous.
Elle sourit et se pencha vers le sorcier, une lueur amusée mais un rien réprobatrice dans le regard.
Et si elles sont en argent, c'est beaucoup trop.
Elles sont en or, dit Zed soudain très sérieux. « Mais tu ne travailleras pas directement pour moi. »
Djebra regarda la bourse, les yeux écarquillés, puis les releva vers le vieil homme.
« Pour qui alors ?»«
Richard, le nouveau maître Ral. »
Djebra blêmit, secoua vigoureusement la tête et rendit la bourse au sorcier.
« Non, désolé, mais je ne veux pas être à son service. »
« Pourtant, il n'est pas maléfique, c'est même un très gentil garçon. »«
Je sais. »«
Tu le connais ?»«
Je l'ai vu hier, oui, le premier jour de l'hiver. »«
Et tu as eu des visions à son sujet ?»«
Oui, »
souffla Djebra.
« Dis-moi ce que tu as vu, sans rien omettre, c'est très important. »
Djebra resta silencieuse un long moment.
« C'était pendant les dévotions du matin, » dit-elle enfin. « Quand la cloche a sonné, Je suis allé dans une cour et il était là, immobile, devant un bassin, comme fasciné par les poissons. Je l'ai remarqué parce qu'il portait l'épée du sourcier et aussi à cause de sa taille et de sa beauté. De plus, il ne s'était pas agenouillé. À un moment, nos regards se sont croisés et le pouvoir que j'ai senti en lui m'a coupé le souffle. C'était le don Z. Et je suis capable de le reconnaître, comme toutes les pitis. J'ai déjà vu des gens qui le détiennent. Leur aura est unique. Tous étaient comme vous, débordant de gentillesse et de chaleur. Votre aura est magnifique, la sienne est différente, il a vos qualités avec quelque chose de plus.
La violence, souffla Z, parce qu'il est le sourcier.
Peut-être. Je ne saurais le dire car je n'avais jamais rien vu de comparable, mais je sais ce que ça m'a fait. On aurait cru qu'on me plongeait la tête dans un baquet d'eau glacée sans que j'aie pu prendre une inspiration avant. Parfois, je n'ai pas de vision au sujet d'une personne. Dans d'autres cas, elles explosent dans mon esprit. Impossible de dire quand ça se produira. Mais lorsque les gens sont désespérés, leur aura brille plus et les visions viennent plus facilement. L'aura de Richard évoquait un éclair au plus fort de la tempête. Il était à la torture, comme un animal pris au piège qui se ronge une patte pour fuir, terrifié par l'idée de devoir trahir ses amis pour les sauver. Je n'ai pas compris ce que ça signifiait. Pour moi, ça n'avait aucun sens, mais j'ai vu l'image d'une femme superbe, aux cheveux très longs. Peut-être une inquisitrice, même si ça paraît impossible dans ce contexte. L'aura de Richard irradiait tant d'angoisse pour elle que je me suis touché le visage craignant que ma peau ne soit brûlée. C'était si douloureux que je me serais jeté à genoux, même si ça n'avait pas été l'heure des dévotions. Je voulais courir le réconforter quand deux morts de Sith sont arrivés. Elles ont bien entendu remarquer qu'il était debout. Il n'a pas eu peur, mais s'est agenouillé quand même, accablé par la trahison qu'il allait devoir commettre. Quand j'ai vu ça, j'ai cru en avoir fini avec lui et cela me soulagea. Avoir des visions sur cet homme aurait été terrible.
Mais tu n'en avais pas fini avec lui?
Non. Je croyais que le pire était passé, mais je me trompais.
Jebra se tordit nerveusement les mains.
Nous récitions la prière au petit père Ral. Soudain, Richard s'est relevé en souriant. J'ai compris qu'il avait trouvé une solution à son dilemme. Oui, la dernière pièce du puzzle était en place. Dans son aura, il n'y avait plus que le visage de la femme et son amour pour elle.
La pitié secoua mélancoliquement la tête.
Je plains le fou, la folle qui tentera de s'interposer entre ces deux-là. Le meilleur moyen d'être broyé en un clin d'œil et je ne suis pas sûr qu'il s'en apercevrait.
La femme s'appelle Callan,
précisa Zed avec un petit sourire.
Que s'est-il passé ensuite?
Les visions ont défilé dans ma tête. J'ai vu Richard tuer un homme, mais je n'aurais pas su dire comment. Pas en versant son sang. Pourtant, le résultat était le même. Puis j'ai vu qui était sa cible, Darkenral. Après, j'ai compris qu'il était son père, mais Richard l'ignorait. J'avais en face de moi l'héritier de Darkenral, le futur maître. Son aura était déchirée par de terribles conflits, un homme du peuple destiné à devenir roi.
Z posa une main amicale sur l'épaule de la pitié.
Darkenral voulait s'approprier une magie dangereuse pour régner sur le monde. En l'arrêtant, Richard a épargné la torture ou la mort à une multitude d'innocents. Même si commettre un meurtre est mal, c'était pour la bonne cause. Tu n'as sûrement pas peur de lui à cause de ça.
Non, c'est la suite qui m'a terrorisé. Quand il s'est levé en plein milieu de la dévotion, les deux morts de Sith se sont interposés. L'une d'elles a brandi un agiel et j'ai vu qu'il en portait un autour du cou, rouge, comme les leurs. Il l'a saisi et a annoncé qu'il les tuerait si elle ne s'écartait pas. Son aura exprimait une violence qui m'a coupé le souffle. Il aurait aimé qu'elle relève son défi. Elles l'ont senti et se sont effacées. J'ai eu les autres visions au moment où il s'en allait.
Des larmes perlant à ses paupières, Jebra se posa une main sur le cœur.
« Zed, elles ne sont pas toujours claires. Parfois leur signification m'échappe. » Un jour, J'ai vu une famille entière de fermiers dont les oiseaux picoraient les entrailles. Comment donner un sens à ça? Plus tard, j'ai appris que des merles avaient dévoré leur semaille. Ils ont pu replanter et protéger leurs champs. Mais s'ils n'avaient pas réussi, tous seraient morts de faim. Parfois, j'ignore si les visions se réaliseront. Pour certaines, je sais que les choses se passeront ainsi.
Je comprends, Djebra. Les visions sont une forme de prophétie, donc elles peuvent être déroutantes. Comment étaient celles que tu as eues au sujet de Richard? Confuses ou précises?
Elles allaient de l'imprécision totale à la clarté la plus limpide. Un torrent d'images comme je n'en avais jamais connu. En principe, je n'ai qu'une vision et les choses sont simples. Je sais ou non ce qu'elle signifie et si elle se réalisera. Avec Richard, c'était une tempête d'images. Mais toutes charriaient la douleur, la violence et le danger. Celles qui prédisaient vraiment son avenir étaient les pires. J'ai vu quelque chose autour de son cou. Sans savoir ce que c'est, j'ai la certitude que ça lui fera du mal et que ça le séparera de cette femme, Callan, et de tout ce qu'il aime. Il sera prisonnier, loin de tout.
Richard a été capturé et torturé par une mort de Sith. C'est sans doute ce que tu as vu.
Il ne s'agissait pas du passé mais de l'avenir. Et la douleur n'était pas celle qu'inflige une mort de Sith.
Quoi d'autre?
Demanda Zed.
Je l'ai vu dans un sablier. Il était à genoux dans la moitié inférieure et pleurait d'angoisse. Le sable tombait autour de lui, mais pas un grain ne le touchait. Dans la partie supérieure, hors de sa portée, se dressaient les pierres tombales de tous ceux qu'il aime. J'ai vu un couteau pointé sur son cœur, et c'était lui qui le tenait, les mains tremblantes. Mais une nouvelle image a chassé celle-là avant que j'aie vu la suite. Ça ne signifie pas qu'il ait survécu, car les visions ne se présentent pas toujours dans l'ordre chronologique. Richard portait un splendide manteau rouge, avec des boutons et des épaulettes en or. Il gisait sur le ventre, un couteau dans le dos. Il était mort, et pourtant, il ne l'était pas vraiment. Il a tenté de se retourner, mais une autre image a jailli avant que je voie son masque mortuaire. Ce fut la plus forte et la pire.
À présent, Djebra sanglotait. Zed lui tapota l'épaule pour l'encourager à continuer.
J'ai vu sa peau brûler.
Elle essuya ses larmes et se balança d'avant en arrière comme un enfant qui se berce.
Il hurlait et je sentais l'odeur de ses chairs calcinées. Puis ce qui le torturait, je ne peux pas dire quoi, s'est éloigné de lui et il a perdu connaissance. Sur sa peau, j'ai vu une marque comme gravée au fer rouge.
Zed se racla la gorge sèche comme du papyrus.
As-tu distingué ce qu'elle représentait?
Pas clairement. Mais je sais qu'elle était là, aussi sûrement que le soleil dans le ciel à midi. C'était le signe de la mort, celui du gardien. Il en avait fait sa créature.
Tu as eu d'autres visions?
Oui, mais elles étaient moins puissantes et je ne les comprenais pas. Elles défilaient trop vite pour que je capte autre chose que la douleur. Puis cela cessa d'un coup. Alors que les morts de Sith le regardaient partir, je suis allé m'enfermer dans ma chambre et j'ai pleuré pendant des heures, tétanisé sur mon lit. Dame Ordit est venue frapper à ma porte. Comme j'ai prétendu être malade, elle a fini par partir en me maudissant. J'ai sangloté jusqu'à l'épuisement. Richard est un homme de bien. J'étais terrifié de voir le mal s'emparer de lui. Et toutes ces visions, bien que différentes, avaient un point commun. Le danger entoure cet homme comme l'eau enveloppe un poisson.
Elle se reprit un peu.
Voilà pourquoi je ne travaillerai pas pour lui. Que les esprits du bien me protègent, je ne veux rien avoir à faire avec le danger qui le guette, ni avec le royaume des morts.
« Je comprends, mais j'espérais, avec ton pouvoir, que tu l'aiderais à éviter ce danger.
Même si on m'offrait toute la puissance et la fortune du duc, je ne voudrais pas être au service de Maître Oral. Je ne suis pas lâche, mais je n'ai rien d'une héroïne, ni d'une imbécile. Mes entrailles sont revenues dans mon ventre. Pas question qu'elles en ressortent, et mon âme avec. »
En silence, Zed regarda Djebra reprendre lentement le contrôle d'elle-même et chasser de son esprit les terribles visions. Quand ce fut fait et qu'elle leva les yeux sur lui, il dit simplement
« Richard est mon petit-fils. »
« Que les esprits du bien me pardonnent !»
gémit Djebra. Elle ferma les yeux, se plaqua une main sur la bouche et resta ainsi un long moment.
« Zed, je suis navré de vous avoir dit tout ça. Si j'avais su, je vous en prie, excusez-moi. »
« La vérité est ce qu'elle est, Djebra. Je ne suis pas un homme à t'en vouloir parce que tu me l'as montré. Et n'oublie pas, étant un sorcier, je savais que le danger guettait Richard. C'est pour ça que je voulais t'engager. Le voile est déchiré, mon enfant. Le monstre qui t'a éventré venait du royaume des morts. Si la brèche s'élargit, le gardien en sortira aussi. Les actes de Richard, selon les prophéties, font de lui le seul homme susceptible de refermer le voile. »
Le sorcier posa les pièces d'or sur les genoux de Djebra. Alors qu'elle baissait les yeux, il retira son bras et elle fixa la bourse comme si c'était un animal qui risquait de la mordre.
« Ce sera dangereux ? »
demanda-t-elle d'une toute petite voix.
« Pas plus qu'une petite promenade digestive dans une forteresse ennemie. »
fit Zed en souriant. La main de Djebra serra convulsivement son ventre, là où il aurait dû être encore ouvert. Elle sonda le grand couloir comme si elle cherchait un moyen de fuir ou craignait une attaque.
« Ma grand-mère était une pitié, » dit-elle sans regarder Zed, « et mon unique guide. Elle m'a dit un jour que les visions me vaudraient une vie de souffrance et que je ne pourrais pas m'en débarrasser. Mais si j'avais l'occasion de les utiliser pour faire le bien, a-t-elle ajouté, cela allégerait mon fardeau. C'était le soir où elle m'a remis la pierre. » Djebra prit la bourse et la jeta sur les genoux de Zed. « Je ne ferai pas ça pour tout l'or de Dara, mais pour vous, je n'hésiterai pas. »
Zed sourit et lui tapota la joue.
« Merci, mon enfant. »
Il lui relança la bourse, les pièces cliquetant joyeusement.
« Tu auras des frais, donc. L'excédent sera à toi. C'est ma volonté. »
« Si vous insistez, que devrais-je faire ?»«
D'abord, nous avons tous les deux besoin d'une bonne nuit de sommeil. Dans quelques jours, Dame Bévinvier, ta convalescence terminée, tu devras entreprendre un petit voyage. »
Il sourit de l'avoir froncé comiquement les sourcils.
« Nous sommes tous les deux très fatigués. Demain, quand je serai frais et dispo, je devrai partir pour accomplir une mission de la première importance. Avant mon départ, nous reparlerons de tout ça. Mais dès à présent, je te demande de ne plus porter la pierre en public. Montrer ton pouvoir à nos adversaires ne serait pas très malin. »
« Ainsi, mon nouvel employeur veut aussi que je travaille sous couverture. Voilà qui n'est pas très honorable. »
« Ceux qui pourraient te reconnaître ne s'en prendraient pas à ton or, car ce seraient des serviteurs du gardien. Ils voudront beaucoup plus que de l'or. Et s'ils te débusquent, tu regretteras que je t'ai sauvé aujourd'hui. »
Djebra acquiesça avec une grimace éloquente.